en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le secrétaire perpétuel, en son temps, au nombre des forces créatrices du droit, Georges Ripert faisait figurer, à côté de la politique, la morale et l'économie. Ces forces, celles de la liberté et celles de la nécessité, sont toujours à l'œuvre aujourd'hui, alors que le droit connaît une très grande expansion. Cet essor est lié à une forte poussée éthique qui vient comme compenser l'instrumentalisation dont il est l'objet dans le cadre compétitif de la mondialisation et du marché. D'un côté, le droit est contraint toujours davantage par la nécessité économique, qui, dans la discipline de l'analyse économique du droit, lui a trouvé une formulation théorique et mathématique depuis plus d'un demi-siècle. De l'autre, il est traversé par un courant d'aspiration éthique, souvent en continuité avec les droits de l'homme, mais pas seulement, qui ne se rattache à rien d'utilitaire ni de calculable. Marché et droits de l'homme sont aujourd'hui le cadre dans lequel évolue la réflexion politique et juridique. Je traiterai d'abord de ce que j'appellerais la démoralisation du droit par l'économie, puis je ferai état des éléments qui me semblent permettre de parler aujourd'hui d'une moralisation du droit. J'examinerai enfin ce à quoi peut prétendre le droit dans ce contexte aussi bien pratique que théorique entre la morale et l'économie. Pour commencer donc, le point de vue de l'économie. Morale et économie ne font pas nécessairement bon ménage, comme le montre la célèbre fable des abeilles de Mandeville. J'en rappelle quelques termes. Il y avait autrefois une ruche qui ressemblait à une société humaine bien réglée. Il n'y manquait ni les fripons, ni les chevaliers d'industrie, ni les mauvais médecins, ni les mauvais prêtres, ni les mauvais soldats, ni les mauvais ministres. Elle avait une mauvaise reine. Tous les jours, des fraudes se commettaient dans cette ruche et la justice, appelée à réprimer la corruption, était corruptible. Bref, chaque profession, chaque ordre était rempli de vices. Mais la nation n'en était pas moins prospère et forte. En effet, les vices des particuliers contribuaient à la félicité publique, et en retour, la félicité publique faisait le bonheur des particuliers. Ceux qui ayant compris, les plus scélérats de la tribu, travaillaient de bon cœur au bien commun. La non moins célèbre formule « vice privé, vertu publique » résume la morale de cette fable. Il s'agit, pour garantir la prospérité et le bon fonctionnement de l'économie, de se garder d'y mettre une morale ou un droit réglementaire et de laisser le champ libre aux passions privées. Le bien s'étant emparé de la ruche, le malheur s'y installa, en même temps que la vertu. Dans les années 1970 et 1980, certains tenants du néolibéralisme ont pensé voir dans la philosophie de Friedrich August von Hayek une confirmation de l'idée selon laquelle l'insertion de la morale par le moyen du droit dans l'économie ne serait pas souhaitable. Hayek entend combattre le totalitarisme en incriminant ce qu'il appelle l'illusion constructiviste, telle qu'elle traverse une tradition philosophique partant de Descartes ou de Hobbes en passant par le contrat social. Cette tradition a engendré le projet d'une reconstruction volontaire de l'ordre social selon les principes de la raison. Or, selon Hayek, le marché parvient à fonctionner sans qu'il soit besoin de le mettre en ordre de l'extérieur par l'intermédiaire d'une raison planificatrice dont les connaissances sont toujours insuffisantes. Hayek condamne toute intervention étatique dans l'ordre du marché et opte pour un libéralisme radical. En effet, toute intervention ne saurait introduire que du désordre, au sens cybernétique du terme, dans le jeu autorégulé, qui conduit à un accroissement du flux des biens et des chances pour tous les participants de satisfaire leurs besoins. Dans ce contexte, l'État doit se border à créer le cadre juridique où sera possible une diffusion maximale de l'information au sein de la société. Pour Hayek, l'ordre spontané du marché est la meilleure voie d'accès à une véritable justice sociale, éloignée de toute planification autoritaire. Le marché, donc, serait l'instrument d'un droit juste et authentiquement moral. Qu'en est-il aujourd'hui ? Il faut bien admettre que l'économie semble s'être emparée du droit, l'évidant ainsi de sa dimension morale. Regardons premièrement ce qui se passe dans l'expérience du droit. L'économie tend à occuper une place de plus en plus grande dans le droit. Cette expansion s'inscrit tout d'abord dans l'expérience du droit. Les juristes eux-mêmes débattent volontiers de la définition et de la justification du droit économique et ils reconnaissent la nécessité de le prendre en considération à travers le droit de la concurrence et le droit communautaire. Il devient même un critère négatif d'appréciation. Le droit de la consommation et le droit de l'environnement apparaissent alors comme des droits anti-économiques. C'est pourquoi certains juristes se demandent si le droit économique ne constitue pas le pivot autour duquel le droit est en train de se réorganiser dans son ensemble. Mais, au fond, on reste ici dans les dominions d'un droit déclaré, s'affirmant et se discutant lui-même. Tout différent est le phénomène plus sombre qu'on désigne par le néologisme « marchéisation » ou « marchandisation du droit ». Il recouvre une série de processus qui vont de l'objectalisation du droit à son instrumentalisation. Ainsi, en matière financière, avec les contrats de taux que représentent les produits dérivés, le droit constitue, à proprement parler, un objet pour le marché. Mais au-delà de cette sphère qui n'enveloppe jamais que des contrats et qui remonte au moins au XIIe siècle, cette expression concerne le commerce de la justice ou sa privatisation. Elle désigne également le fait que le droit, sous son aspect légal, réglementaire, jurisprudentiel, donne parfois l'impression d'être devenu un instrument plus ou moins dépouillé de sa spécificité pour être utilisé dans une stratégie économique ou politique. La marchandisation du droit transforme ce dernier en élément d'appréciation de la valeur d'un bien ou d'un investissement. Les normes juridiques, rapportées à leur littéralité, y sont utilisées comme moyen de pression pour d'autres buts. Le droit se trouve ainsi évidé. Cette marchandisation est renforcée dans un contexte de mondialisation. Les juristes se partagent dans l'interprétation de cette évolution. Certains y voient le triomphe de la liberté marchande, d'autres ont tendance à interpréter cette évolution comme un considérable mépris du droit qui risque de conduire à son remplacement pur et simple par le marché. Deuxièmement, la théorie du droit. Ici aussi, l'économie semble avoir opéré une percée décisive. On assiste à une sorte de marchandisation théorique dont la résonance est nettement plus positive et optimiste que ce que je viens de décrire. Il s'agit de trouver au droit une explication enfin satisfaisante. La thèse des coûts de transaction de l'Américain Ronald Coase est ici d'une importance majeure. Pour cause, il y a du droit parce que les coûts de transaction ne sont pas nuls. C'est parce que la concurrence n'est pas parfaite que l'existence du droit représente un gain. Dans un univers de concurrence parfaite, son existence n'aurait aucune pertinence. En fait, cette théorie ne se contente pas de trouver une explication nouvelle, de tenue rationnelle à cette formation sociale qu'est le droit. Elle fait davantage, elle en déplace la définition. Le droit commence non pas avec les contrats individuels, mais dans leur dépassement, après qu'ils ont été estimés comme trop coûteux. L'économie marchande engendre du droit. L'analyse économique du droit de Richard Posner s'est également imposée avec force. La réflexion de ce dernier situe l'existence du droit dans une perspective utilitariste. Coase et Posner revendiquent davantage l'héritage d'Adam Smith que celui de Bentham, dont Posner entend se démarquer définitivement en écartant toute composante psychologique. Posner, estimant que Bentham échoue à définir l'utilité de façon satisfaisante, met au centre de son raisonnement la notion de maximisation de richesse, de sorte que la seule forme de préférence qui s'impose est celle qui s'appuie sur l'argent, c'est-à-dire qui s'insère dans un marché. Toute préférence est traductible en termes monétaires. La force de cette argumentation vient de ce que le paradigme du marché est étendu au marché implicite ou hypothétique. Le marché implicite, ce peut être le marché du mariage, une partie de bridge ou l'éducation des enfants. Le marché hypothétique correspond aux situations où les coûts de transaction sont tels qu'ils empêchent le recours au marché actuel pour allouer les ressources de manière efficiente. Ces travaux font du modèle de la rationalité identifiée au marché tout à la fois la source des actions et des institutions et en même temps le principe de leur intelligibilité. En ce sens, la théorie économique du droit propose une vision du monde exhaustive et cohérente. Elle semble avoir un champ d'application illimité, puisqu'elle va jusqu'à évoquer des obligations juridiques de violation efficiente de la norme. C'est pourquoi on a reproché aux analyses de Posner de reposer sur le postulat d'une quantification ou monétisation universelle. On est passé de « le droit a pour objet l'économie » à « l'économie a pour objet le droit ». L'économie comme science du droit. L'économie du droit évacue toute dimension normative ou morale du droit. Elle avance comme une armée qui absorberait les disciplines normatives sans qu'il y ait de raison de s'arrêter. Les économistes du droit eux-mêmes affirment que leur théorie fonctionne d'autant mieux et d'autant plus cohérente que tout résidu normatif ou externe est éliminé du droit. Richard Posner va jusqu'à entrevoir le crépuscule du droit en intitulant un de ses livres « Le déclin du droit comme discipline autonome ». Le développement de l'économie du droit a suscité des critiques. Lorsqu'on tente d'esquisser une synthèse des apports de l'économie du droit à la théorie juridique, on peut faire la remarque suivante. L'analyse économique du droit procède d'un individualisme méthodologique. Elle repose sur le postulat du comportement rationnel de l'homme en société, auquel la règle de droit impose, dans la poursuite de ses objectifs, des contraintes et des coûts. Il peut s'agir pour la règle d'interdire, de prescrire ou d'éviter tel ou tel comportement. Cette thèse révèle une conception de l'économie qui est celle de la grande tradition utilitariste anglo-saxonne. L'économie n'est autre que de la science du calcul individuel, le jeu de l'intérêt personnel, de l'auto-economicus. Elle conduit donc à apprécier les règles de droit exclusivement en termes d'efficacité. Or, l'assujetti à la règle de droit peut avoir un comportement irrationnel, voire déviant. Cette réserve trouve une assise scientifique dans les travaux de l'économiste Herbert Simon, qui dans les années 70 développe la thèse d'une rationalité dite « limitée », ce qui veut dire qu'il n'existe pas de rationalité absolue. Comment définir l'intérêt général dans une telle perspective? Les théoriciens de l'analyse économique du droit l'assimilent à un état d'optimum social, optimum dit de Pareto, selon lequel on ne saurait améliorer la situation d'un individu sans diminuer la satisfaction d'un autre individu. Les juristes traditionnels déplorent que la généralisation de l'analyse économique du droit à l'ensemble du système juridique finisse par pervertir le droit des biens, des contrats, de la responsabilité de la famille en les transformant en instruments de politique économique. C'est ainsi qu'il y a quelques bémols à ce que j'ai appelé l'économisation du droit. Il n'en existe pas moins, donc, un très fort courant de moralisation du droit. Deuxièmement, donc, le point de vue de la morale. Il y a un rapprochement général du droit et de la morale. Il y a, premièrement, du nouveau historique. Les horreurs du nazisme sont apparues comme liées au strict positivisme kelsénien. Kelsen assimilait le légitime au légal. Du point de vue formel, le droit nazi est irréprochable. D'où la réaction contre le pur légalisme. C'est par exemple le but visé par le célèbre livre de Léo Strauss, « Droit naturel et histoire ». Deuxièmement, il y a du nouveau politique. Dans les pays soviétiques et assimilés, les voix des dissidents se sont élevées au nom des droits de l'homme. Ces derniers ont connu un tel renouveau que certains n'ont pas hésité, parfois sans précaution, à évoquer une analogie avec le droit naturel. Troisièmement, il y a du nouveau philosophique. Une forte réaction par rapport au positivisme et au règne de la technoscience se fait sentir. Il s'agit d'un véritable retour de l'éthique. Il tient à la crainte éprouvée de divers côtés devant la mercantilisation, la technicisation et l'instrumentalisation de toutes les valeurs. C'est ainsi que s'impose aujourd'hui la figure de Jürgen Habermas, récemment venu au droit, il y a une vingtaine d'années, qui met en doute la légitimation de la légalité par sa seule rationalité, comme le voulait Max Weber. Habermas estime que l'instrumentalisation systématique des règles juridiques et leur réduction à des purs commandements du législateur ôte au droit toute force de légitimation. Pour lui, il ne saurait y avoir une rationalité inhérente au droit, indépendante et étrangère à la morale. La juridisation de l'État et de la société ne peut s'appuyer que sur des principes moraux. Il y a bien, écrit Habermas dans Droit et morale, une moralisation saillante du droit. Elle est intimement liée à la poussée de juridisation qui a accompagné l'État-providence. L'hypothèse de Max Weber selon laquelle il y aurait une rationalité inhérente au droit en tant que tel serait le fondement de la force de légitimation de la légalité et ne s'est pas confirmée. La domination exercée sous les formes d'un droit positif en quête de justification droit constamment sa légitimité à un contenu moral implicite présent dans les qualités formelles du droit. Pour donner une idée du rapprochement entre le droit et la morale, je m'arrêterai sur deux mouvements. Le premier entend davantage tenir compte des structures sociales et des institutions. Le second s'efforce d'arracher le droit au paradigme jugé trop restrictif de la rationalité marchande. Ces deux mouvements approfondissent la réflexion sur l'essence de l'économie. Ainsi, la discipline de la nouvelle sociologie économique propose de repenser l'économie en l'insérant dans la société et plus précisément dans ses structures normatives. Elle critique l'illusion objectiviste qu'induit la science économique. Elle tend à faire comprendre que, apparemment objective, l'économie constitue le fondement normatif partagé par les membres des sociétés modernes. Cette réification de l'économie demeure bien un produit social, politique, et pouvant désormais revêtir les couleurs de l'objectivité, tant il fait consensus aujourd'hui. Aujourd'hui, ainsi, l'économie peut-elle indûment soustraire ses fondements normatifs à l'espace politique de la discussion, alors qu'il faudrait laisser ouvert, au sein même de la théorie, un espace critique qui laisse et rende possible une pensée du devoir-être. Cette volonté de faire échapper l'économie au modèle du marché s'exprime par exemple avec le mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, le MOS, créé en 1980. Ce mouvement vise à restituer l'irréductibilité du lien social en le soustrayant à l'interprétation par les intérêts économiques. L'anti-utilitarisme inclut le paradigme utilitaire, mais il entend le compléter. Le MOS, au nom chargé d'histoire, reproche à la sociologie, qui aurait dû être une anti-économie, de se confondre avec l'utilitarisme et de tendre à tort à devenir une économie politique généralisée. La mission de la sociologie est au contraire de montrer que l'économie, contrairement à l'évidence commune, se déploie socialement, c'est-à-dire selon une rationalité spécifique à la reproduction du lien social. Dans un esprit analogue, l'école de la régulation et celle des conventions appartiennent toutes deux au courant institutionnaliste français qui a toujours été attentif aux dimensions historiques et sociales de l'économie. Ainsi, l'analyse de l'évolution récente du droit économique français fait apparaître un certain renouveau de théories telles que celle de l'institution de Maurice Auriout. Dans l'analyse régulationniste, le marché n'est qu'une institution comme les autres. Quant à l'économie des conventions, apparue dans les années 1980, elle vise le renouvellement de l'analyse économique par dépassement du réductionnisme néoclassique. Ses représentants promeuvent la notion de convention, conçue à la fois comme le résultat des actions individuelles et comme cadre normatif contraignant les sujets. Ils entendent surmonter, c'est ce qui est important, l'opposition entre individualisme et holisme. Ils veulent ainsi montrer les limites de la vision néoclassique d'une monnaie neutre dont la valeur varierait selon les préférences d'une multiplicité d'agents isolés. Le marché financier, au contraire, ne peut fonctionner que sur la base d'une coordination a priori des anticipations, la monnaie devant être considérée comme une institution. Cette coordination s'exprime à travers des conventions, c'est-à-dire la construction sociale de représentations collectives servant de référence commune aux agents individuels. Cette conception fait apparaître les crises monétaires comme crise de l'arbitrage social. En son temps, Émile Durkheim, avait déjà une position similaire. Au nom de la solidarité organique, il critiquait le contractualisme de Herbert Spencer et écartait l'idée d'une socialisation basée sur le fonctionnement d'un marché autorégulateur. Il me faut ici mentionner l'importance de la pensée de l'économiste indien Amartya Sen, spécialiste internationalement reconnu des questions de développement, qui a obtenu le prix Nobel en 1998. Amartya Sen est un économiste inclassable, philosophe et par-dessus tout humaniste. Il s'est efforcé de montrer que l'analyse économique traditionnelle était incapable de penser la diversité des comportements humains et qu'il était nécessaire d'y introduire des considérations éthiques. L'ouvrage qui doit ici retenir notre attention s'intitule « L'économie est une science morale ». Je crois, dit-il, que dans le monde où nous vivons, la réflexion économique a quelque chose à apporter à l'éthique réelle. La mise en relation des deux disciplines le conduit à critiquer l'idée que la rationalité économique coïncide avec la maximisation de l'intérêt individuel égoïste. Il existe en effet des comportements compassionnels, normatifs, solidaires, coopératifs, etc., qui sont parfaitement rationnels. Non seulement la conception de l'homo economicus comme agent rationnel dépourvu de dimension affective et morale n'est guère réaliste, mais elle n'est pas toujours efficace, y compris d'un point de vue économique. La pensée d'Amartya Sen a donné l'impulsion décisive au puissant mouvement de ce qu'on a appelé, de ce qu'on appelle l'économie normative. Plus proche de nous encore, mais bien dans l'esprit d'Amartya Sen, j'évoquerai Mohamed Yunus, prix Nobel indien lui aussi, prix Nobel de la paix en 2006, qui a inventé au Bangladesh l'institution du microcrédit. Ce système permet, dans une société non bancarisée, de proposer des petits crédits à des taux d'intérêt qui sont inférieurs à ceux des usuriers de village. Ces petits crédits servent à de toutes petites entreprises familiales. La banque que Mohamed Yunus a fondée est toujours rentable et elle accorde aujourd'hui des prêts à plus de 7 millions de pauvres. Comme l'explique Mohamed Yunus, il s'agit simplement d'imaginer d'autres hypothèses que celles de la théorie économique dominante, selon laquelle tous les individus sont exclusivement mus par le désir de la maximisation du profit. Après avoir inventé le microcrédit qui s'est répandu dans le monde entier, Mohamed Yunus pense qu'il faut inventer un nouveau capitalisme qui ne serait pas tendu vers le profit maximal et qui consacrerait ses bénéfices à la diminution des coûts et à la production d'avantages sociaux. On voit bien le mélange des genres. Les économistes ne sont pas les seuls à vouloir dépasser l'identification étroite entre la réalité économique et le modèle de la rationalité marchande. Certains juristes, également animés par cette préoccupation, soulignent la composante proprement juridique de la notion de marché. C'est le cas du professeur Alain Supiot, spécialiste de droit social, qui tente, dans l'esprit de Philadelphie, la justice sociale face au marché total, de réanimer les termes de la première déclaration internationale des droits à vocation universelle, qui fut proclamée à Philadelphie le 10 mai 1944. Ce texte se situe aux antipodes de la dogmatique ultralibérale qui domine les politiques nationales et internationales depuis 30 ans. Aristote voyait dans la réciprocité proportionnelle une troisième force de justice nécessaire à la vie de la cité. À côté de la justice distributive et de la justice corrective, la déclaration de Philadelphie ne disait pas autre chose lorsqu'elle réaffirmait que la pauvreté constitue un danger pour la prospérité de tous. J'aborderai à présent, c'est ma troisième partie, la question de savoir comment ces deux forces, celle de l'économie et celle de la morale, l'ordre de la nécessité et l'ordre de la liberté, se traduisent dans la réalité du droit d'aujourd'hui. Où se situe-t-il entre ces deux expressions de la vie humaine? Comment orchestre-t-il leurs rapports respectifs? Est-ce qu'il relève de sa mission d'opérer la synthèse, chère aux philosophes, mais parfois un peu facile, entre la nécessité économique et la liberté morale? Si oui, comment peut-il procéder? Mon hypothèse est la suivante. Le droit occupe la place du tiers. Il joue le rôle d'un régulateur, d'un organisateur des rapports de l'économie et de la morale. En jouant ce rôle, il se charge d'un certain nombre de caractères qui tendent à lui conférer ce que j'appellerais une forme de réflexivité, comme s'il revenait sur lui-même. Je n'en prendrais pour exemple que l'apparition des lois expérimentales. Ici, la notion centrale, relativement nouvelle, empruntée à la biologie et à la cybernétique, est celle de régulation, qui se distingue radicalement de la classique réglementation. J'envisagerai tout d'abord l'essor des codes de déontologie qui sont une variante auto-organisée, les professionnels se donnent à eux-mêmes leurs règles, de la régulation. On parle alors d'auto-régulation. La déontologie est la conscience du bon comportement déterminée par un groupe particulier. Elle appartient à la soft law, droit souple, dénué de force contraignante, immédiate, mais exprimant une culture d'entreprise et dont le non-respect par le professionnel ou le salarié peut constituer une faute. En cela, la déontologie se situe entre la morale et le droit et constitue un outil privilégié de l'autorégulation. Codes de déontologie et chartes d'éthique sont apparus dans les décennies 1980-1990, d'abord dans les entreprises américaines, puis dans les entreprises françaises. Je pense en particulier aux codes obligatoires en matière de corporate governance, que l'on a traduit par l'expression « gouvernement d'entreprise ». L'histoire du corporate governance est une histoire dans laquelle se mêlent mondialisation, bon sentiment et peut-être cynisme. De quoi s'agit-il ? De principes vertueux qui doivent assurer un meilleur contrôle des dirigeants. Les actionnaires américains ont en effet trouvé à se plaindre d'eux quand ces derniers sont de plus en plus payés alors que leur société va de plus en plus mal. Ces idées se trouvent vite ramenées à un catéchisme limité, des administrateurs, des comités assistant le conseil d'administration, une séparation des fonctions de président et de directeur exécutif. Ces idées limitées circulent facilement et trouvent d'utiles messagers. Les Américains acquièrent des actions des grandes sociétés européennes et en particulier des sociétés françaises, et les fonds de pension répandent la vulgate du corporate governance avec efficacité. L'idée est que la concurrence vertueuse forcera toutes les entreprises à appliquer ces règles. En France, le MEDEF s'empare habilement de ce besoin d'éthique. Rapport Viennot 1, Viennot 2, puis rapport Bouton. Il est fréquent que ces codes d'éthique soient décidés non par l'ensemble des parties prenantes, mais par une partie d'entre eux. Aux États-Unis, les grandes sociétés disent faire application des principes du corporate governance. L'une d'elles, Enron, l'une des plus grandes capitalisations boursières nord-américaines, fait brusquement faillite en décembre 2001. À la suite des tromperies des dirigeants et des auditeurs, les richesses de la société ne sont qu'apparence et toute la construction s'écroule à la première difficulté sérieuse. On aurait pu imaginer que ce supplément d'âme introduit par les idées du corporate governance subissent le même sort qu'Enron. C'est le sentiment qu'on eut avec la loi Sarbanes-Oxley qui suivit 6 mois plus tard et qui fit appel au droit le plus classique en prévoyant d'aggraver la responsabilité des dirigeants et d'introduire des organes étatiques de contrôle des auditeurs. Dans le même temps, la réponse américaine est aussi judiciaire. Le district attorney de New York incrimine les nouveaux barons de la finance américaine, dénonce les conflits d'intérêts en matière de banques d'assurance et leur fait payer des sommes considérables. Où en est la situation européenne ? Les autorités européennes ont pris peur depuis Enron des fragilités des sociétés cotées et sont partagées entre un mouvement de libéralisation du droit et un renforcement des contrôles. Les codes d'éthique vont être le moyen magique d'assumer ensemble les deux tendances et de dépasser leurs contradictions. Une directive de 2006 reprend une idée du groupe communautaire de haut niveau du droit des sociétés de 2001. Cette idée consiste à transformer en outils juridiques les codes d'éthique qui se sont généralisés depuis l'affaire Enron par le biais de cet étrange principe venu d'outre-Manche qu'est le principe comply or explain. Ce principe est introduit dans le droit français par une loi de 2008. Il est dorénavant prévu que la société cotée doit appliquer un code de gouvernement d'entreprise. Si elle ne le fait pas, elle doit expliquer les raisons de son attitude. Si elle ne le fait qu'à moitié, elle doit aussi expliquer les raisons de cette application partielle. Ce système est d'une grande subtilité. On peut penser qu'il représente un système de sujets juridiques plus mûrs auquel ne s'applique pas un ordre juridique uniforme, mais un ordre juridique plus souple, plus flexible. Mais ce constat est plus ou moins juste, car il ne s'agit pas d'appliquer plus ou moins la loi, il s'agit d'appliquer plus ou moins les codes d'éthique. En fait, le recours à la morale ou à l'éthique en droit des affaires doit éviter deux écueils. Le premier tient à ce qu'on pourrait désigner comme une sorte de fonction répulsive de la morale, qui aurait alors pour mission d'éviter l'intervention du droit. Le deuxième écueil tient à ce que le recours à la morale ou à l'éthique pourrait être un faire-valoir commode qui permette à une activité déterminée de se parer d'une légitimité sociale particulière, notamment parce que sa réputation est sulfureuse ou ses pouvoirs contestés. Si l'autorégulation, les codes de déontologie, désigne un système apte à définir et à maintenir son équilibre par ses seules forces, la régulation, elle, postule au contraire que le marché sur lequel elle souhaite agir n'a pas eu la force de créer ni de maintenir ses équilibres propres. C'est d'elle qu'il va s'agir maintenant. Grâce à ces mécanismes, la régulation vise à construire un juste équilibre sur les marchés en préservant d'une part l'efficience d'un marché et d'autre part le respect des biens communs et des droits fondamentaux. En cela, la régulation exprime une nouvelle philosophie morale et juridique. L'idée de régulation est toujours liée à celle de déréglementation. Comment la régulation est-elle mise en œuvre ? Il faut ici parler de ces organismes de type nouveau, appelés en France « autorités administratives indépendantes ». Je vous remercie de me pardonner le caractère un peu technique de ces choses et je le ferai rapidement. L'autorité administrative indépendante est la forme juridique que le législateur a le plus souvent choisie pour construire les autorités de régulation. Le droit français leur accorde la plus grande importance. Il y en a plus d'une cinquantaine en France. Certaines sont plus connues que d'autres. C'est le cas du Conseil de la concurrence, par exemple, de la Commission nationale informatique et liberté, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ou encore, plus proche du sujet qui est le nôtre, concernant l'articulation des principes, de la finance et du droit, c'est-à-dire l'autorité des marchés financiers. L'élément essentiel de l'expression « autorité administrative indépendante » est dans le dernier adjectif, à savoir le caractère indépendant de l'organisme. Cela signifie que cet organe, qui n'est qu'administratif, donc ayant vocation à être dans l'exécutif, n'obéit pourtant pas au gouvernement. En cela, on a très souvent désigné les régulateurs comme des électrons libres, ce qui a posé le problème de leur légitimité, puisqu'ils ne pouvaient plus puiser en amont dans la légitimité du gouvernement pour asseoir la leur. En outre, l'indépendance du régulateur est parfois mise en doute lorsque le gouvernement conserve le pouvoir de nommer les dirigeants de l'autorité de régulation. Le deuxième point concerne le premier adjectif, à savoir qu'il s'agit d'un organe administratif. L'ordonnance du 1er décembre 1986, dite ordonnance Balladur, qui entendait briser l'idée d'une économie administrée pour imposer la liberté des prix et l'idée du libéralisme économique, a imposé que les attaques faites contre les décisions de régulateurs économiques prenant la forme d'autorités administratives indépendantes seraient portées devant la Cour d'appel de Paris, juridiction judiciaire. Certains auteurs ont même alors pu en déduire que la Cour d'appel de Paris était devenue une juridiction administrative, mais après cette grande position de 1986, le juge administratif reprend petit à petit sa place dans le système, on peut alors se demander si l'on ne revient pas à un esprit de régulation défini comme une police administrative et à une économie administrée par l'État. Enfin, le troisième point concerne le nom lui-même d'autorité et je vais abréger ce troisième point pour en arriver à ma conclusion. Ainsi donc, parce que je vois que le temps presse, autorégulation et régulation sont ainsi les moyens qu'utilise le droit pour organiser les rapports de l'économie et de la morale. Qu'est-ce que ces modalités d'organisation disent sur le droit d'aujourd'hui ? Le rôle croissant d'organes non étatiques, les comités de déontologie, les organisations professionnelles, ou se situant à la périphérie de l'État, les autorités administratives indépendantes témoignent de l'émergence du pluralisme juridique, ou parfois seulement du pluralisme normatif. Pour le théoricien du droit Günther Teubner, la notion de pluralisme signale l'ouverture du sous-système social qu'est le droit à une communication avec d'autres sous-systèmes sociaux. Ainsi, l'idée et l'acceptation du pluralisme, le pluralisme comme horizon, me paraissent représenter une des meilleures façons possibles de faire tenir ensemble droit, morale et économie. Il importe de penser le pluralisme non pas comme éclatement des disciplines, mais comme unité de la diversité. En son temps, en 1931, Gurvitch avait développé la thèse du pluralisme juridique. Plus près de nous, dans les années 60, la sociologie du droit s'est intéressée plus précisément au rapport entre le droit et les pratiques économiques. Elle s'est traduite dans une interprétation qui fait du contrat un vecteur du pluralisme juridique. Ces thèses s'appuient sur la théorie de l'internormativité en analysant la manière dont les acteurs économiques du monde des affaires gèrent leurs relations contractuelles. Il est ainsi apparu que les hommes d'affaires, le plus souvent, évitent de recourir aux sanctions et aux droits étatiques pour ajuster ces relations ou transiger en cas de différend. Le pluralisme est ici horizontale et non pyramidale, et les sources normatives sont censées coexister sans se subordonner. Cette unité dans la diversité qui est un véritable pluralisme ne peut être atteinte que par un droit réflexif, à la fois tout et partie, ou plus exactement régulateur et partie. Ce droit peut être dit réflexif parce qu'il ne cesse de s'observer et de s'évaluer lui-même. Dans cette démarche, il se dédouble dans la mesure où, constituant lui-même une partie du système social, il est aussi régulateur des relations entre les sous-systèmes moral et économie. Je vous remercie de votre attention.
Un certain nombre de nos confrères ont souhaité intervenir et je vais donner la parole d'abord à M. Delarosière.
Merci, Monsieur le Président. J'ai beaucoup apprécié l'exposé que nous venons d'entendre parce que il est assez rare de fournir une palette aussi riche de réflexions, de références aussi doctrinaires sur un problème qui en fait est mal connu et traité souvent d'une manière assez superficielle. Vous avez bien montré que l'économie ne fait pas très bon ménage avec la morale, même si elle s'appuie sur le droit pour protéger les acteurs individuels, que ce soit le droit de la propriété ou le droit des contrats. Jacques Rueff a souligné quelque chose qui est très en harmonie avec la thèse que vous venez de développer. C'est un des grands monétaristes, comme vous le savez, et il a démontré toute sa vie et dans toute son œuvre que la monnaie n'était pas seulement un moyen d'échange ou une forme de détention de réserve, de créance. Pour lui, la monnaie devait avant tout être une institution légitime et morale. Sans quoi les banques centrales pouvaient, et en fait c'était le cas, être dévoyées en créant, par exemple, de la monnaie inflationniste, non fondée sur des réalités économiques qui justifient l'acte de création monétaire. Ce qu'il appelait, et c'est une expression que vous auriez aimé sans doute, les faux droits. Et donc, je pense qu'il avait fondamentalement raison, et que après que il était un peu désespéré de ne pouvoir faire changer les choses, et que le système monétaire international s'est vraiment dévoyé après 1971-73 et la fin du rattachement alors du dollar américain. On a vu que le système des faux droits s'était généralisé et que les États-Unis avaient utilisé la prédominance de fait, sinon juridique, mais elle était quand même juridique aussi, du dollar pour pouvoir consommer à crédit pendant 30-40 ans sans s'occuper du tout de l'accumulation des dettes et des créances qui ressortait de ces opérations. Et je voulais simplement rappeler cette conception essentiellement morale, parce que Rueff, grand économiste, était avant tout un moraliste. Je voulais rappeler sa pensée et vous demander si ce que je viens de dire évoque quelque chose pour vous dans la ligne de ce que vous avez développé. Merci.
Merci. Monsieur Delvolvé.
Monsieur le Président, cet exposé était très riche et a abordé bien des points des rapports entre droit, économie, morale. Et vers la fin, un développement tout à fait important et qui a suscité quelques remous, mais ce n'était pas du tout négatif. Lorsque vous avez traité des problèmes de la concurrence, et notamment du contentieux de la concurrence, vous avez soulevé là une question qui avait, dans les années 80, à la fin des années 87, suscité bien des réactions en doctrine et en jurisprudence. L'ordonnance est de 86, mais les arrêts du Conseil d'État et la décision du Conseil constitutionnel sont de 1987. Et vous avez eu tout un développement sur le droit de la régulation. Question très importante, à laquelle un dossier très important vient d'être consacré sous la direction de notre confrère Yves Godemet dans la revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger. On a beaucoup parlé de la régulation comme d'un phénomène entièrement nouveau et à très juste titre. Vous avez souligné que dans le domaine économique, et pas seulement, puisque vous avez cité le domaine de l'informatique, le domaine de l'audiovisuel, en parlant notamment de la CNIL, du CSA, etc. Et on s'est interrogé sur la qualification des différentes institutions, et vous n'avez pas manqué de le faire en vous demandant si ces autorités étaient véritablement indépendantes et si elles étaient administratives, avec les conséquences qui en résultent sur le contentieux. Je ne nie pas l'importance des transformations dans l'encadrement de l'économie qui résulte d'un certain nombre de dispositions ayant contribué à substituer à l'autorité de l'État et de ses institutions ministérielles, je pense, à la direction du Trésor, en ce qui concerne le contrôle des banques et du crédit, à la direction des prix, en ce qui concerne les prix, la concurrence, etc., à substituer à ces autorités ministérielles des autorités dotées d'une véritable autonomie, pour ne pas parler d'une indépendance. Certaines institutions n'ont pas de personnalité, la plupart n'ont pas la personnalité juridique, mais certaines d'entre elles l'ont, au premier rang desquels l'autorité des marchés financiers, qui est une autorité non pas administrative, mais une autorité publique indépendante. Le mot public étant destiné à souligner la personnalité morale, ce qui est tout un problème d'ailleurs, de ces institutions, et ce n'est pas le seul cas. Question. Est-ce qu'il y a véritablement une transformation dans la nature juridique, je ne parle pas des modalités, dans la nature juridique de l'intervention de ces autorités, donc des autorités publiques de l'État au sens large, dans l'économie? Modalité, certainement. Nature, je ne crois pas, si l'on veut, si l'on considère que nous sommes en présence avec ces nouvelles modalités d'une activité qui est fondamentalement une activité de police. Le mot peut faire horreur, mais c'est un mot qui a une signification juridique. Qu'est-ce que l'activité de police ? C'est l'activité ayant pour objet d'établir un certain ordre, et notamment d'établir une régulation. Que fait l'agent de police au carrefour de deux routes ? Il assure la régulation du trafic. Et il n'y a pas si longtemps, un arrêt du tribunal des conflits de 1949, enfin, on va me dire c'est déjà ancien, à propos de l'office de la régulation, de la navigation, parle de la régulation du trafic fluvial, mettant en corrélation l'offre et la demande de bateaux sur le réseau fluvial intérieur. Le mot était déjà employé il y a, ça fait combien de temps, plus de 60 ans. Le mot n'est pas entièrement nouveau et la notion n'est pas entièrement nouvelle. Et je dis qu'il s'agit de la police, parce que encore une fois, il s'agit d'assurer un certain ordre. Un ordre dans l'utilisation de l'informatique, un ordre dans l'utilisation des moyens d'échange audiovisuels, un ordre dans l'activité bancaire, un ordre dans la concurrence, etc. C'est bien de la police au sens le plus élémentaire du terme. Et si l'on peut bien revenir à cette considération fondamentale, c'est bien une activité administrative avec des moyens divers. Autorisation, contrôle, autorisation, déclaration, contrôle, sanctions, qui sont des sanctions administratives. Mais elles sont bien administratives, parce que adoptées par des autorités de police pour faire régner un certain ordre. Et de là découle de la constatation du caractère administratif de ces interventions à travers la diversité des autorités, la constatation que ce sont des mesures administratives qui sont prises et qui normalement, et là je vois déjà les sourires éclairer le visage de certains de mes confrères, relevant normalement de la compétence de la juridiction administrative. Et si ce n'est pas la juridiction administrative, que sous pression des avocats de l'époque, qui est compétente pour certains contentieux, notamment le contentieux de la concurrence, alors c'est un contentieux administratif qui est déféré à la juridiction judiciaire, la Cour d'appel de Paris, qui devient dans cette hypothèse une véritable juridiction administrative. Ne voyez pas dans mes propos quelque chose de provocateur ou destiné à rappeler ce que j'ai déjà écrit il y a un certain temps, mais je crois que c'est la réalité juridique de la régulation, fondamentalement une activité de police.
Merci. Monsieur Pébreau.
Merci, Monsieur le Président. Cet exposé était très riche et donne beaucoup à penser. Je regrette qu'il ait été abrégé sur la fin. Je voulais justement demander des précisions sur la partie qui a été un peu écourtée tout à fait à la fin de l'exposé, qui portait sur la question d'autorité. En ce qui concerne l'autorité, précisément, l'une des questions que je voulais poser était-elle davantage économique ? Elle portait sur le rapport entre cette autorité et la morale. Notre confrère vient de parler d'une autorité de police en ce qui concerne le fonctionnement de cette autorité. S'agit-il d'une autorité de police visant à assurer une certaine forme d'ordre moral ou la morale n'a-t-elle rien à faire dans cette affaire ? Voilà, c'est ma première question. Ma deuxième question était, elle, relative au point de départ du raisonnement qui portait sur le marché, la façon dont il s'était progressivement libéré du concept de droit. Je voulais demander si cette libération incluait ou non les deux principes de de l'état de droit auquel les économistes sont attachés, c'est-à-dire le droit de propriété, le droit du contrat qu'a évoqué tout à l'heure Jacques de la Rosière, qu'a évoqué Jacques de la Rosière. Y a-t-il un marché possible sans droit de propriété et sans droit du contrat? Merci, Monsieur le Président.
Merci. Monsieur Trichet.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, permettez-moi de dire que nous avons eu un exposé remarquable, extrêmement riche et très, comme vous l'avez souligné vous-même, Monsieur le Président, très, très, très complet. J'ai une remarque et, qui est en même temps une question. Vous avez cité naturellement Adam Smith. Entre Mandeville et Hayek, on est passé par Adam Smith, qui donc a donné, disons, une version, la main invisible, qui est beaucoup moins vicieuse, évidemment, que la fable de Mandeville, et qui repose finalement sur l'observation que la recherche de son intérêt, la recherche des intérêts particuliers, concourt à un optimum économique et social. Adam Smith a fondé l'économie, c'était en même temps un moraliste, et dans la théorie des sentiments moraux, il a vraiment fait œuvre absolument remarquable, me semble-t-il, de moraliste. Et je voulais vous interroger justement sur la non-contradiction, me semble-t-il, entre l'économie dont l'un des fondements, l'économie en tout cas ouverte, dont l'un des fondements est la main invisible, et la morale et le droit. D'autant que, et leur relation avec les Lumières, qui est un de nos axes fondamentaux de réflexion. J'étais très frappé moi-même de lire chez Montesquieu, donc là on est au cœur du droit et de la législation, très très intéressé de voir que lorsqu'il recherche les principes qui font fonctionner les divers régimes politiques, lorsqu'il s'interroge sur la monarchie, il estime que le principe fondamental qui fait fonctionner la monarchie, c'est l'honneur. Et il dit explicitement que, en croyant aller à ses intérêts particuliers, en recherchant l'honneur, l'ensemble des citoyens ou des partenaires, de ceux qui contribuent à la société monarchique, vont au bien commun. Donc c'est exactement le principe de la main invisible. Et je note aussi, en passant, pour nos collègues très intéressés par les Lumières, que on retrouve dans les deux cas, c'est-à-dire Adam Smith et Montesquieu, la métaphore de la mécanique newtonienne. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils ont emprunté la mécanique newtonienne, qui est elle-même à la base, me semble-t-il, des Lumières, très largement. Ils ont emprunté cette métaphore pour l'un, Montesquieu, construire une partie de son analyse sur, en tout cas, le régime monarchique, et l'autre, Adam Smith, pour réfléchir sur la recherche de l'optimum économique. Donc, c'est un peu... Avez-vous un commentaire sur ce que je viens de dire, madame? Voilà la question.
Merci. Monsieur Ménard.
Merci, monsieur le Président. Je voulais surtout apporter un petit additif à l'intervention de M. Delvolvé. Un petit additif concernant le mot « police ». Et ce mot a été très bien employé par vous, et je dirais que vous avez simplement omis de signaler que ce sens que vous lui donniez était un sens archaïque. Archaïque. Mais il est illustré notamment par un ouvrage qui est un classique de l'érudition, un des ouvrages les plus importants pour tout chercheur sur la période de l'Ancien Régime, c'est le traité de la police de Delamare. Traité de la police. Police, dans ce titre, signifie exactement cela. C'est une administration. Et administration concernant, dans ce cas particulier, la ville de Paris. La ville de Paris, sur laquelle nous avons une histoire et une analyse juridique et morale qui est tout à fait exemplaire. Donc c'est un classique et qui n'est pas seulement utile pour les historiens, mais utile pour les juristes et autres. Alors, si je peux me permettre de poser une autre question qui s'adresserait spécialement notre communicante, je poserai la question suivante, qui est un peu méchante, mais quelle est l'autorité qui fonde la morale ?
Oui, j'ai été très intéressé par cette excellente communication. Et comme l'entreprise et l'économie ont été citées de très nombreuses fois, je voudrais, en tant que petit représentant de l'entreprise, apporter mon petit témoignage. D'abord, est-ce qu'il y a vraiment dans le monde une hégémonie de l'économie actuelle qui annexerait le droit, la morale, je n'en suis pas sûr. Qu'il y ait une espèce de priorité à l'économie, c'est certain, on peut s'en passer. Et pour une raison simple, ce n'est pas l'économie elle-même, ce n'est pas l'enrichissement de tels ou tels actionnaires, ce n'est même pas la création de produits ou de services nouveaux, c'est le fait que l'économie crée des emplois. Quelle est la priorité mondiale aujourd'hui de tous les États du monde ? C'est le chômage, c'est l'emploi. Or, l'emploi, on le sait bien, est créé par l'économie. Il n'y a aucun doute, on en est absolument tous persuadés. La réussite économique crée la croissance et la croissance crée l'emploi. Cette règle est absolue et on ne l'a pas encore trouvé de succès d'année où ceux qui ont été trouvés, comme les emplois subventionnés et étatiques, vous le savez bien, sont de courte durée, sont périssables, sont très coûteux, ils ne sont pas durables. L'emploi durable, c'est l'emploi rentable. C'est la définition même de l'emploi durable. Il faut qu'il soit rentable. Donc, je ne veux pas défendre l'économie bec et ongle, ni les entrepreneurs, mais je peux vous dire qu'en tant qu'entrepreneur, ayant créé une entreprise il y a bien longtemps, je n'ose plus dire la date, n'est-ce pas ? Mais à cette époque, avec mon frère, on s'était posé la question, est-ce qu'il faut être honnête pour être entrepreneur ? Ou est-ce qu'on peut être entrepreneur bien qu'en étant honnête ? Ce problème nous a tenaillés pendant longtemps et je peux vous dire qu'on peut répondre de façon affirmative. Non, mais sans arrière-pensée. On nous a dit, mais jeune homme, vous savez bien qu'un homme d'affaires, il y a le mot affaire dans homme d'affaires. Et les affaires n'ont pas d'état d'âme. Si vous êtes un homme d'affaires, vous n'êtes pas avoir d'état d'âme. Vous n'êtes pas des enfants de cœur. On nous sous-entendait que la malhonnêteté était le corollaire des affaires. Eh bien, ce n'est pas vrai. Moi, je peux vous dire que c'est faux. C'est absolument faux. On peut gérer des affaires tout à fait honnêtement. Nous n'avons jamais eu un sou de dette, on n'a jamais eu un procès. Puisqu'on parle de droit, je n'ai eu que des procès en propriété industrielle pour des brevets. En 62 ans, nous n'avons pas eu un procès commercial. Qui dit mieux ? Bon, ça prouve qu'on s'est entendu, même avec nos mauvais payeurs, qui nous ont quand même payés. Je me rappelle d'ailleurs une anecdote qui va vous amuser. Un jour, mon service financier me dit « Monsieur, il y a un client qui vendait des métaux non ferreux, je ne sais pas pourquoi il était client, qui ne nous a pas payé malgré nos relances nombreuses. » J'ai dit, je vais appeler ce brave homme, et puis je vais lui demander ce qui se passe. J'ai appelé le PDG, et je lui ai dit, moi je suis PDG de mon côté, vous aussi, comment ça se fait que vos services ne payent pas ? Il m'a répondu, monsieur, mais c'est des règles que j'ai données, on ne paye jamais. Alors je lui ai dit, mais ça marche ? Il m'a dit, partiellement. Et alors je lui ai dit, monsieur, je peux vous faire une prédiction, vous n'allez pas durer longtemps. Jeune homme, je ne durerai plus longtemps que vous. Et il a fait faillite au bout de 2 ans ou 3 ans, bien entendu. Sa malhonnêteté s'est répandue. Et dans le domaine de l'électronique, il a été exclu, barré. Bon, cette petite anecdote que vous me pardonnerez est éloquente et authentique. Elle prouve que quand même, comme disait Gélinier, la vertu finit par payer en commerce, dans le droit commercial. Voilà. Alors, je ne veux pas trop m'absentir sur ces problèmes-là. Mais puisque vous avez parlé de morale et de l'économie avec l'entrepreneur, l'entreprise, je ne veux pas l'entrepreneur, l'entreprise qui devenait un petit peu trop hégémonique et pouvait annexer la morale. Moi, j'y crois pas. Je crois que c'est tout à fait compatible et je pense que les entreprises durables sont les entreprises honnêtes. Donc il n'y a pas incompatibilité. Comme on l'a dit souvent, on l'a laissé entendre, vous avez cité souvent Enron, vous avez bien fait. Enron a été un drame chez nous. Moi, j'ai suivi Enron de près, je m'étais un peu mêlé à ce problème-là. Ce problème de corruption financière immense a jeté un discrédit extraordinaire sur les entreprises mondiales. Ça a été le premier grand scandale mondial. Mais il ne faut pas faire un cas d'école, il y en a eu d'autres depuis. Les pères malades et autres, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y aura toujours des malheureux gens dans toutes les professions, et il y en a dans les entreprises, c'était que ça. Pas plus que chez les journalistes, les pharmaciens et peut-être les professeurs. Je ne pense pas, parce que les professeurs sont réputés très honnêtes. Voilà. Alors, je ne sais pas, c'est une remarque qui ne pose peut-être pas une question, mais enfin, vous me répondrez peut-être quand même.
Merci. Pas d'autres questions? Bien, je vais faire une remarque, si vous permettez, madame. Il est incontestable que l'évolution qui caractérise notre époque, en ce qui concerne la relation entre, par exemple, l'économie, le droit et la morale, va dans le sens que vous avez dit, à savoir celui de la prévalence de plus en plus accentuée, par exemple, dans le domaine du droit, de la catégorie de pluralisme. Et vous avez évoqué Gurvitch, bien sûr. Vous me permettrez de revenir à celui auquel il faut toujours revenir dans la modernité, au philosophe qui a ouvert la modernité. Je vais parler de Kant. Vous savez mieux que quiconque qu'il distingue deux grandes sortes de jugements, c'est-à-dire d'activité de l'entendement, les jugements déterminants dans lesquels, en partant d'un « un », on s'efforce de le déterminer et de le différencier. Et les jugements réfléchissants, dans lesquels, au contraire, en s'installant, parce que d'abord on y est installé dans la pluralité et dans la diversité, on s'efforce de dégager une certaine unification possible de cette diversité. Pour Kant, le type, le domaine qui exemplifie le mieux le jugement déterminant, c'est ce qu'il appelle la morale au sens général du terme, qui inclut la moralité ou l'éthique et le droit ou la légalité, et à l'intérieur de la morale, c'est le droit. Le droit énonce des jugements déterminants. Il impose une différence, une détermination à une exigence qui est d'abord l'unité pratique elle-même, celle qui se traduit par la maxime « tu dois ». Alors, la question que je me pose est la suivante. Est-ce que s'efforcer de mettre en œuvre un droit qui hébergerait de façon de plus en plus accentuée le pluralisme, ce n'est pas distendre en même temps que le lien, on l'a dit tout à l'heure, entre le droit et l'État, l'exigence juridique elle-même, en faisant se substituer à la notion du politique, la notion du public. Et si j'évoque un certain nombre de références dans votre intervention, elles sont bien là. Habermas, qui se dit kantien, à mes yeux, ne fait rien d'autre que détruire Kant, puisque précisément, il veut substituer, dans cette perspective qu'il dit kantienne, à la loi le contrat. Quant à Gurvitch, c'est lui aussi un tenant de la suprématie de la diversité et non pas de l'unité. Je ne sais pas bien ce que c'est que l'unité dans la diversité. Est-ce que la diversité peut accoucher de quelque chose d'autre que d'elle-même? Alors, ma question est la suivante. Vous avez parfaitement décrit l'évolution qui est en cours. Est-ce que vous, vous faites vôtre cette évolution? Est-ce que vous pensez que l'on peut substituer le public au politique et, en conséquence, envisager un droit qui reprendrait à son compte l'affirmation habermasienne de la suprématie du jugement de réflexion sur le jugement de détermination, ce qui reviendrait aux yeux d'un archéo ou d'un paléocantien, et j'en suis un, à substituer, si vous voulez, au droit ou à introduire dans le droit le lieu qui est celui des jugements réfléchissants, c'est-à-dire l'art lui-même. Est-ce que ce ne serait pas une esthétisation du droit? Voilà la question que je voulais vous poser.
Pas d'autres questions? Eh bien, madame, c'est là. Bon, alors je vais commencer par me défiler, parce que la question de Monsieur de la Rosière, enfin la remarque de Monsieur de la Rosière me paraît constituer un apport, un précieux apport. Et je ne sais pas très bien quoi apporter de nouveau à cette évocation de Rueff, des faux droits, et c'était vraiment très, très précieux. Alors, et je vous en remercie infiniment. Monsieur Delvolvé a admis que dans la notion de régulation, il y avait certainement, et dans les formes que la notion de régulation pouvait prendre, il y avait certainement une novation. Mais que cette novation était peut-être moins grande qu'il n'y paraissait, et que nous étions, que c'était une manière de rejoindre une classique opération de police. Je m'étais demandé si je n'introduirais pas dans l'exposé que je projetais de faire la question suivante, mais elle m'apparaissait un peu hors sujet, mais maintenant elle me paraît plus centrale. Beaucoup de théoriciens et de sociologues du droit se demandent si nous ne serions pas en train de faire connaissance avec un droit qu'on pourrait qualifier de post-moderne, par rapport à un droit moderne. Et certains esprits sont enthousiastes à l'idée de cette nouvelle ère dans laquelle nous entrerions, mais d'autres sont plus circonspects. Et je me référerai à Mireille Delmas-Marty, qui, analysant cette transition, cette crise du droit moderne, qui était caractérisée par sa stabilité, par sa généralité, quel attribut dont le droit se serait peu à peu dépourvu, mais quand même, se montre extrêmement sceptique, elle aussi, tout comme vous, par rapport à cette innovation radicale, et elle en conclut qu'il n'y a pas une réelle innovation, mais que, sous des dehors, peut-être, ne faut-il pas les qualifier de plus rusés, mais sous des dehors plus tentaculaires, le droit contemporain viserait à établir une manière plus adaptée de faire la police. Voilà, je crois que... Et que le droit moderne ne serait jamais qu'une, enfin, le droit postmoderne ne serait jamais qu'une excroissance fallacieuse d'un droit qui reste toujours et effectivement moderne, comme il a été inventé du XVIe au XVIIIe siècle. Et voilà. Alors, Monsieur Pébreau m'a posé une question embarrassante. Quel est le rapport entre l'autorité et la morale? Alors, je vais un petit peu anticiper sur la question que me posera Monsieur Ménard. Quand la question aussi très délicate, quelle est l'autorité qui fonde la morale? Et je crois que quand on met en rapport l'autorité, la notion d'autorité et celle de morale, il faut tout de suite avoir l'idée que la morale n'est pas fondée, mais que la morale est fondatrice. Et que l'autorité, que lorsqu'il y a une autorité, elle dérive d'une morale qui se tient elle-même, se constitue elle-même, qui est inconditionnelle et qui n'a pas à être conditionnée. Alors, la deuxième question, évidemment, dépasse mes compétences. Peut-il y avoir un marché possible sans droit de la propriété et sans droit du contrat? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça me paraît inimaginable. Mais peut-être suis-je un peu courte ici, mais propriété et la propriété et le droit moteur qui est le moteur de l'action humaine. Monsieur Trichet s'est référé à Adam Smith, dont il rappelle, à juste titre, que c'était un grand moraliste. Et qu'il y a, que dans son œuvre magistrale, La théorie des sentiments moraux, il y a bien établi la non-contradiction entre la main invisible, la morale et les lumières. Et j'irai dans ce... Enfin, j'ajouterai, je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter, si ce n'est qu'il ne faut pas oublier de rappeler que l'utilitarisme se définit comme la recherche du bonheur et que ce bonheur est effectivement lié à la morale. Alors les utilitaristes vont essayer de définir le bonheur et ils vont le définir comme la maximisation du plaisir. C'est ainsi que peu à peu certains vont les analystes économiques du droit que j'ai cités, notamment Ronald Coase et Richard Posner, réduisent le bonheur à la maximisation monétaire, mais que c'est une réduction très contemporaine qui n'était pas du tout à l'esprit des grands utilitaristes tels que Adam Smith. Et je vous remercie pour la remarque selon laquelle Adam Smith et Montesquieu se référaient tous deux à la mécanique newtonienne. Alors, Monsieur Ménard donc m'a posé une question extrêmement embarrassante qui reprend celle de Monsieur Delvolvé. Quelle est l'autorité qui fonde la morale? Ce n'est certainement pas une administration administrative indépendante qui fonde la morale, mais c'est le contraire. La morale est une des composantes de l'ordre qui est l'ordre humain, l'ordre des hommes vivant ensemble. Alors, Monsieur Gattaz m'a aussi... Je n'ai pas attaqué l'économie. Je n'ai pas dit que l'économie avait établi une hégémonie complète sur le monde. Le thème de l'économie a formé ma première partie, mais ma deuxième partie était consacrée au thème de la morale et de la moralisation du droit, avec les droits de l'homme, avec la réaction à l'instrumentalisation. Et puis surtout, j'ai fait état justement d'économistes qui savaient et voulaient articuler l'économie, l'entreprise, le marché et la morale. Et je réinsiste maintenant, ici, sur le cas, la démarche véritablement novatrice d'Amartya Sen, cet économiste et prix Nobel de 1998, pour lequel j'ai la plus grande admiration et qui a effectué une véritable révolution avec son livre « L'économie est une science morale ». Enfin, M. Bourgeois m'illumine. Un droit qui valoriserait le pluralisme, je pensais avoir été, mais je ne pense pas finalement avoir atteint mon objectif, en disant que ce pluralisme devait être conçu comme l'unité qui enveloppait la diversité et qui faisait tenir ensemble la morale, la police, l'économie. Je pensais que cette notion, en faisant du droit ce qui était à la fois partie et tout, répondait au risque d'éclatement des diversités et de la diversité. Et évidemment, le mot de pluralisme risque d'opérer un glissement vers l'esthétisation du droit. Mais le droit est peut-être aussi un art. Donc, c'est le risque que je prends ici. Et évidemment, le public ne saurait remplacer le politique. Et je crois qu'il nous faut attendre ici la séance inaugurale du mois de septembre, où nous entendrons parler des rapports entre les sciences juridiques et les sciences politiques.
Vous avez assuré la transition. Je voulais vous dire à nouveau combien j'ai apprécié, une fois de plus, votre sens, votre art et votre force dans l'élaboration d'une synthèse. Votre conférence a été extrêmement riche de contenu, mais tout était organisé, articulé. Ça a été un modèle de ce point de vue-là, et je vous redis encore toutes mes félicitations. Alors, vous avez suscité un certain nombre de questions et d'interrogations, mais la chose l'exigeait absolument, et c'est pourquoi je suis heureux que cette séance ait pu montrer une fois de plus ce qui a été manifesté tout au long de l'année, à savoir la vivacité de nos confrères qui ont participé à chaque fois tout au long de cette année au débat sur la signification, le statut des sciences, de la destination des sciences morales et politiques. Cette séance a été à l'image des précédentes, mes chers confrères, et je vous remercie de la participation très active qui a été la vôtre, favorisée par des conférenciers et des conférencières comme Madame Théry. Alors, les vacances vont quand même exister, même si nous allons nous retrouver en pays de connaissance chez les conférenciers le 29 septembre, puisque nous écouterons notre confrère François Théré. Alors, je vous souhaite à tous, mais je leur dirai tout à l'heure pour les académiciens seuls, puisque nous avons un comité secret, mais je souhaite à tous les présents un excellent été et d'excellentes vacances, et à vous, madame, au premier chef. Je lève donc la séance en incitant les académiciens à revenir dans quelques instants pour la tenue de notre comité secret. Voilà, merci encore, madame.